J'aimerais aujourd'hui que l'on suive les traces de Bingham. J'aimerais que l'on découvre Machu Picchu. J'aimerais que l'on se replonge dans l'ambiance de ce site archéologique qui a été découvert de façon tellement extraordinaire et tellement curieuse en 1911 qu'en soi, c'est déjà une aventure. C'est un voyage. C'est un voyage qui va partir aujourd'hui carrément d'Hawaï où est né Bingham et on terminera sur cette vision fantastique. Cette incroyable vision parce que oublier une cité comme Machu Picchu pendant 4 siècles, ça n'est déjà pas ordinaire, mais tout à coup se retrouver devant ces ruines en sachant qu'on est le premier occidental, c'est vraiment merveilleux. Quand on parle de Machu Picchu, quand on vit quelques heures, quelques jours, quelques semaines à Machu Picchu, je me rappelle, c'est un exemple. Je vais vous donner exactement le genre de choses qu'on ressent. Ça me rappelle les fameuses fêtes du soleil que j'avais vécues à Cusco il y a déjà bien une dizaine d'années. Mais c'est un exemple qui m'avait beaucoup marqué. Je suis resté plusieurs semaines de ma vie à Machu Picchu sur le site même. Mais j'étais sur les rives du lac Titicaca et j'avais fait la connaissance de certains musiciens dans la région et j'avais pris le train qui part de Titicaca jusqu'à Cusco, on monte à 5000 mètres pratiquement et on redescend ensuite vers cette vallée de Cusco, on suit la fameuse vallée sacrée qu'on suivra tout à l'heure pour aller avec Bingham jusqu'à Machu Picchu et dans ce train, en seconde classe, il y avait tout un groupe de ces musiciens de la région du lac Titicaca. Tous avec leurs ponchos rouges, avec leurs quenas, avec leurs tambours tendus de peau. À l'époque précolombienne, c'était même de la peau humaine qu'on tendait sur ces tam-tams. Et ces quenas, ce sont tous ces instruments avant qui ont toujours été utilisés par les précolombiens. Et dans ce train, on était parti à l'aube de la région de Puno, de Juliaca, et il faut une bonne journée pour arriver jusqu'à Cusco, avec un arrêt au sommet, au col de la Raya. Et ces jeunes ont commencé à jouer à 7h du matin, et ils ont fini à 7h du soir. Donc on a vécu une journée entière, avec des paysages incroyables, avec ces sommets blancs qui apparaissent de temps à autre au milieu de ces vallées jaunes, et de cette puna déchirée par les vents d'altitude. Et petit à petit, on arrive dans cette moiteur, je dirais presque chaleur, même si nous sommes encore à 3000, 4000 mètres. La vallée sacrée, c'est déjà un miracle. Il y a l'agriculture, il y a les eucalyptus, qui sont des arbres qui n'ont rien à faire dans cette région, puisqu'ils ont été importés. Ce sont des arbres australiens qui ont été importés par les colons, c'est-à-dire par les Espagnols. Mais il y a tout à coup une ambiance qui change. On sent qu'on va vers quelque chose, qu'on a pénétré dans un royaume différent, dans un climat différent. Et ces musiciens ont été très obsédants pour moi. C'est vrai que pendant plusieurs jours, j'avais encore cette musique dans la tête, parce que 24 heures, parce qu'on les avait déjà écoutés le soir d'avant, 24 heures de musique constante, avec ce côté un peu obsédant de la musique andine, ça nous marque beaucoup. Et puis ce groupe était surtout très important parce qu'il n'y avait que des instruments précolombiens, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas d'instruments importés par l'espagnol. Donc c'est encore une musique plus grave, plus sérieuse, plus sourde, plus folle aussi. Et Je vous raconte cela parce que, bizarrement, pendant ces fêtes du soleil, j'ai vécu également de façon incroyable à Cusco, dans une ambiance de fête. Et puis, pour me reposer, si vous voulez, je me suis dit, tiens, après ce que je viens de vivre, il faudrait que je retourne à Machu Picchu. Alors j'ai pris mon petit train pour aller à Machu Picchu et je suis arrivé sur le site. Et au moment où j'ai pénétré sur le site, les premiers que j'ai aperçus, ce sont mes 20 et quelques indigènes qui étaient tous avec leurs ponchos rouges, avec leurs instruments de musique et qui traversaient le site en jouant. Ça, c'est ma première grande image. Là, je me suis ressenti totalement au 14e ou 15e siècle, au moment où Machu Picchu existait, vivait, où les toits de chaume et de jonc étaient encore tendus sur ces murs de forme pyramidale. Alors, c'est vrai que la quena, avec son côté hurlant, les poutoutous aussi, ça c'est un instrument qui me paraît extrêmement important. Le poutoutou, c'est cet énorme coquillage que les Indiens allaient chercher sur la côte pacifique et même des fois jusqu'en Équateur et qui ont ce son guttural très très profond. C'est vraiment un appel, un peu comme notre cor des Alpes, c'est aussi impressionnant que cela. Et ben là, tout à coup, ces gens-là, ils étaient devenus des Indiens emplumés. On avait l'impression de voir tout un cérémoniel, un rituel. Et on n'avait qu'à attendre, en définitive, l'Inca qui arrivait derrière, sur sa chaise à porteur, suprême, sur cette litière d'or, avec les Vierges du Soleil, enfin tout ce cortège des Vierges du Soleil qui l'accompagnaient, les grands prêtres avec leurs masques d'or qui sont incrustés, s'imagine les turquoises. Et puis derrière, admettons que nous soyons juste au moment de la venue de Francisco Pizarro dans ces années 1530, il y aurait eu une bonne dizaine de momies d'Incas, les grands Incas avec leurs épouses qui suivaient. C'est-à-dire tout un cortège de momies, c'est vraiment les momies de Tintin, hein, avec cette forme étrange, cette façon d'être assis en tailleur, complètement vêtus, revêtus avec leurs bijoux, avec leurs couronnes, la mascapaïcha rouge sur le front pour montrer la noblesse et le pouvoir inca. C'est un peu ce qu'on peut s'imaginer simplement en ayant aperçu quelques musiciens. Et puis cette caravane des lamas qui suivent, des lamas de couleurs précises, parce qu'il y a des lamas à sacrifier, il y a des lamas roux, le blanc, etc. Et tout cela qui arrive par la piste Inca et qui passe la grande porte avant de pénétrer sur le site de Machu Picchu. On a le droit de rêver lorsqu'on se pose sur un caillou, où que ce soit, ou si par hasard vous avez le courage de monter jusqu'au sommet du pain de sucre que vous connaissez. J'aime bien la radio parce que ça demande d'imaginer Machu Picchu. Et c'est vrai que quand on a grimpé le Huayna Picchu, on se sent non seulement les maîtres du monde, mais on se sent surtout tellement près des dieux Inca qu'obligatoirement le paysage, tout ce qu'on a sous les yeux, prend une autre valeur. Parce que tout à coup, au sommet du Huayna Picchu, ce sont tous les autres sommets qui apparaissent. Il fait chaud, vous êtes à 2000 et quelques mètres d'altitude, il y a un côté tropical, c'est vrai, il y a cette brume étrange, et en même temps, vous avez de la neige partout à l'horizon. C'est ce contraste entre la jungle et la pointe du monde, le sommet, c'est un peu l'idée himalayenne, si vous voulez. On ressent cela très très fort à Machu Picchu.
Thank you.
Tout ce que je rêvais, tout ce que je voyais, tout ce que nous essayons de voir ensemble depuis le sommet du Huayna Picchu, eh bien c'est ce qu'a dû penser, c'est ce qu'a dû rêver Hiram Bingham. Bingham, bah, c'est normal qu'il ait eu ce même genre de songe, qu'il ait eu ces rêves un peu lancinants, qu'il ait ressenti aussi cet envoûtement, cette façon d'avoir découvert Machu Picchu au début de notre siècle. C'est quand même quelque chose d'assez curieux parce que il recherchait ce qu'on appelle la cité perdue des Incas. On savait qu'il y avait plusieurs cités, même que les Incas avaient vraiment réussi à cacher aux Espagnols après la conquête. Et c'est en plein cœur des Andes qu'il a recherché cela. Si vous prenez la carte, si vous vous replongez au cœur de ce Pérou, si vous trouvez Cusco, vous allez remarquer que Machu Picchu n'est pas très loin. Machu Picchu, c'est à une centaine de kilomètres de Cusco. Or, Cusco, c'est le nombril du monde. C'était le centre du monde Inca. On est dans une vallée séparée de la vallée sacrée. On est dans un endroit très étrange. Allez, je vais vous décrire un peu Cusco, mais vu d'avion, c'est-à-dire sur une idée un peu géographique comme cela. Cusco m'a toujours beaucoup fasciné, parce que c'est une cuvette d'abord. C'est un endroit complètement insensé. On est à 3800 mètres d'altitude. Il y fait beaucoup plus froid que dans la vallée sacrée, qui, elle, bénéficie, comment vous dire cela, bah, non seulement d'un microclimat, mais d'un courant d'air chaud. C'est-à-dire qu'en fait, Machu Picchu est déjà dans la chaleur, et je suis pourtant à moins de 100 km. C'est-à-dire qu'entre la chaleur absolue de Machu Picchu, qui était aux alentours de 2000-2500 mètres, ça dépend où vous vous placez, si vous êtes au fond de la vallée ou si vous êtes sur le site lui-même, vous pouvez même monter jusqu'à 2007-2008, eh bien, il y a à partir de la jungle du côté amazonien, un appel d'air chaud qui monte et qui peut réchauffer même cette vallée sacrée à 3800 qui se trouve en parallèle avec Cusco. Mais reprenons l'idée de Cusco. Je voulais vous décrire cet endroit parce que c'est important de concevoir un site inca. Les Incas ont commencé à construire Cusco très très tard. On peut dire que la civilisation incaïque est née sûrement entre 1300 et 1400. Et le grand jet, c'est à partir de 1460. Et je vous donne des dates précises parce que ça vous prouve que si Francisco Pizarro atteint Cajamarca et fait tomber l'Inca en 1532, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, et qu'il arrive à Cusco en 1533, cela veut dire qu'en moins de 70 ans, ces gens-là ont été jusqu'en Argentine, jusqu'au Chili, jusqu'en Équateur, et qu'ils ont tout à coup obtenu une surface qui paraît aujourd'hui totalement incroyable. Ils avaient pratiquement la moitié de l'Amérique du Sud entre leurs mains à partir de Cusco. J'y reviens. Cusco, c'est donc le nombril du monde. Et c'est surtout à partir de cet endroit que l'on découpe le monde en quatre. Ce qu'on appelle le Tahuantinsuyu. Tahuantinsuyu, c'est l'empire des quatre parties. Donc on avait vraiment mentalement découpé le monde en quatre morceaux. Je dirais pas égaux, parce que c'est pas possible. Vous savez qu'en fait, l'Empire Inca, c'est une longue bande qui va du Chili à l'équateur. C'est plutôt toute la zone andine. C'est un peu comme si cette espèce d'échine, cette espèce d'épine dorsale que sont les différentes Andes qui montent jusqu'en Colombie, représentait véritablement l'expansion elle-même des Incas. Or, ils sont nés comme une mousse microscopique, en altitude, peut-être à partir de Titicaca, c'est possible, mais ils s'installent à Cusco. Ce qui est important, j'y reviens, quand on fait de Cusco une capitale, symboliquement, on va marquer cette capitale. Il y a deux rivières. Une sorte d'Y. Imaginez-vous dans votre tête un Y, et puis en bas de l'Y, bien sûr, la queue principale de l'Y. Mais c'est un peu comme cela que cette vallée est faite. Or, les Incas ont choisi cet endroit, et ils ont dessiné mentalement, et nous le savons aujourd'hui, parce qu'on vole et on l'a vu par avion, ils ont dessiné par avion, qu'est-ce que je raconte, mentalement, une forme qui est celle d'un jaguar. Je m'explique. Le plus grand dieu des précolombiens a toujours été le jaguar, ce prédateur qui est né dans la jungle, qui sort la nuit, qui est le seul animal, pratiquement, capable d'ingurgiter l'homme, c'est-à-dire de prendre la puissance de tout l'univers. Donc c'est resté le dieu majeur depuis le premier indien de l'Amazonie. Depuis le début de l'histoire américaine, ça a été le dieu formateur, créateur, celui qui broie tout, qui mange tout. Ça, je crois qu'on le comprend de manière un peu viscérale, comme ça. Donc, la représentation terrestre, la représentation de la force, de la puissance, du pouvoir, c'est l'idée du jaguar. Comme on pourrait dire aussi, c'est l'aigle, lorsqu'on parle des terres d'altitude. Or, là, je parle un langage tout à fait universel pour l'Amérique, parce que ce langage, je pourrais l'utiliser au Pérou, je pourrais l'utiliser au Chili, mais aussi au Mexique, au Guatemala, enfin toute l'Amérique précolombienne, a donné cette espèce d'ambivalence entre les deux animaux prédateurs les plus forts. Bah, si vous allez en Afrique, on parlera de lion, c'est normal. Si vous allez en Inde, on vous dira peut-être le tigre. Il y a une logique, hein. En Espagne, le taureau. C'est à chaque fois qu'on a un animal fort, on l'utilise comme symbole. Et dans la chrétienté, on le sait, quand on voit simplement les tétramorphes, enfin, on va pas recommencer, mais enfin, c'est vrai, le lion, l'aigle, le taureau, ils sont déjà présents avec Matthieu, peut-être, et l'ange, dans notre base rituelle et religieuse. Et pour les Incas, je me suis un peu écarté du sujet, c'est vrai, pour les Incas, cette idée du jaguar, ce qui me paraît fantastique, c'est qu'on l'a dessiné au sol. C'est-à-dire qu'on a transformé la ville pour qu'elle devienne véritablement un jaguar. On s'est dit, mais comment est-ce que c'est possible de... Prenez le cas de Genève, prenez le cas de Lausanne, vous regardez ça sur une carte, ça ne ressemble à rien. Bien, pour les Incas, c'était l'inverse. Il fallait que la ville ressemble à quelque chose. Donc ça vous prouve déjà au départ que ce n'est pas une ville. Ça vous prouve que c'est d'abord un symbole, que c'est d'abord l'idée qu'on se fait de la puissance et du pouvoir. Donc la ville de Cusco, on n'est pas encore à Machu Picchu, c'est vrai, devient un jaguar parce que il faudra bien que la tête soit la puissance et celle qui broie. Alors là, c'est fantastique, parce que quand on cherche la tête sur la carte de Cusco, on monte à Sacsayhuaman. Pour ceux qui connaissent l'endroit, ça vous dira quelque chose, mais Sacsayhuaman, tout le monde l'a vu une fois. Réfléchissez. Ces fabuleuses murailles, ou plutôt ces trois grandes murailles, en dents de scie, comme ça, en forme de zigzag, qui sont posées sur un rocher, sur une énorme plaine, un peu en altitude. Tout le monde a vu cette forteresse avec ses blocs de plus de 100 tonnes. C'est la construction la plus folle des Incas. C'est là les blocs qui ont été taillés avec d'autres pierres, sans instruments de métal, et qui ont été jointoyés de manière extraordinaire. Ce sont les dents, c'est la mâchoire du jaguar. Donc cette immense forteresse, c'est la tête. Allons chercher plus loin, vous allez voir que cette idée assez étrange, assez peu connue d'ailleurs, du symbole du jaguar, va devenir très intéressante quand on commence à chercher les lieux de puissance. La tête était un lieu très important. Bah, allons chercher peut-être la queue. La queue du jaguar, ça n'a pas d'importance sur le plan symbolique, mais ce qui est extraordinaire, c'est que la rue qui suit la rivière, qui devient unique, s'appelle encore aujourd'hui, en quechua, la queue du jaguar. Donc ceci vous prouve que même au XXe siècle, les termes de cette ville de Cusco, qui n'a pas été complètement démolie, au contraire, qui a été utilisée par les Espagnols avec un plan précolombien, existent encore dans la géographie urbaine. Et puis il y a des choses plus intimes, hein. Je ne veux pas jouer à l'érotique, mais chercher par exemple le sexe du jaguar. Quand vous pensez à la puissance et au pouvoir, il est normal qu'on recherche le lieu sexuel de cet animal qui peut se reproduire comme tout autre animal. Eh bien, le sexe du jaguar, j'en parle parce que c'est peut-être la partie la plus importante de l'Empire. Si je parle de sexe, je parle de côté vital, je parle de puissance réelle, de reproduction possible, reproduction du pouvoir, de la puissance réelle, c'est le Coricancha. Le Coricancha, c'est l'enclos de l'or. C'était le temple du soleil le plus important de tout l'Empire. C'était même le temple que l'on devait reproduire de manière systématique chaque fois qu'on envahissait une autre partie du monde. Je vais aller plus loin. Ce Coricancha, il existe toujours. On a encore ce mur du Coricancha, on a toutes les terrasses qui sont autour, les fontaines qui fonctionnent maintenant. On a beaucoup travaillé grâce à l'UNESCO, mais peut-être aussi grâce au tremblement de terre de 1950 qui a un peu tout démoli dans le couvent et qui a permis de voir que sous les stucs, sous les plâtres, sous les murs d'un couvent dédié à Santo Domingo, il y avait encore les grands temples incas. Et que les niches des temples incas étaient utilisées dans les cellules des moines. Alors on a retrouvé des pierres jointoyées de façon tellement extraordinaire qu'on sent simplement, et je parle déjà de Machu Picchu, par la qualité de la taille de la pierre, qu'un endroit est sacré, ou vraiment très très sacré. Alors bien sûr, il y avait le temple du soleil, de la lune, de Vénus, le temple dédié à l'arc-en-ciel, il y avait une fontaine fabuleuse avec... On sait que les chroniqueurs l'ont décrite avec de l'or et de l'eau qui coulait en constance. Donc, un jardin aussi. Ça c'est peut-être le plus beau souvenir littéraire qu'on puisse avoir des chroniqueurs, c'est ce fameux jardin du Coricancha. Je vous ai dit que ça s'appelait l'enclos de l'or. Eh bien, le jardin entier était plus qu'un jardin zoologique, était plus qu'un jardin avec de la végétation. C'était la représentation en miniature du monde, tout ce qui existait dans l'univers inca. Du petit animal au maïs, à toutes les plantes, à tous les arbres qui pouvaient exister, à tous les personnages et les tribus qui pouvaient exister, mais tout était modelé dans de la feuille d'or. C'était vraiment un décor absolument éblouissant, ou un peu comme pour les décors des sapins de Noël, là je reprends une espèce de découpage un peu enfantin, mais on avait recréé ainsi l'univers dans un enclos, ça devenait vraiment l'enclos de l'or. C'était vraiment cette idée très curieuse, comme pour l'idée du jaguar, eh bien à l'intérieur du sexe du jaguar, on avait toute la puissance, on avait le microcosmos de l'Empire Inca qui était reproduit. Et vous avez senti que j'ai déjà donné le nom de pratiquement toutes les grandes divinités des Incas. Donc c'est vraiment de là que partait tout le moteur, toute l'énergie. Et là, on comprend pourquoi c'est le sexe. L'énergie qui va permettre le mouvement, l'accélération, le temps, la continuité du pouvoir Inca. Ça, c'était le sexe. Et c'est très beau comme endroit à visiter. Et en même temps, on le retrouvera tout à l'heure, peut-être un peu à Machu Picchu. Si ça n'est pas cette fois, c'est la prochaine fois, parce que c'est un thème tellement, tellement fascinant qu'il faut toucher plusieurs éléments afin de construire mentalement les murs de Machu Picchu. Parce que ce que je dois vous dire, bien que je sois toujours un peu bavard, c'est que ce qui m'a toujours fasciné à Machu Picchu, c'est qu'il n'y a rien à dire. Je veux dire que c'est peut-être l'endroit le plus muet du monde. Ce sont les ruines les plus muettes qui soient. Et c'est pour cela que personne n'ose parler de Machu Picchu. Il n'y a pas une inscription, il n'y a pas une sculpture, il n'y a absolument rien sur le plan artistique qui puisse vous laisser un message. La seule chose que l'on retrouvera tout à l'heure avec Bingham, ce sont des cailloux sur des cailloux. Bien, moins bien taillés, parfaitement taillés. Donc c'est uniquement par la texture, par la matière, par l'esprit, par le pouvoir que l'on laisse dans un caillou, qu'on va savoir où nous sommes et pourquoi nous sommes à Machu Picchu. C'est la seule réponse qu'on puisse donner. Maintenant, on a, en voulant parler de Machu Picchu, on a en fait petit à petit repris la description de Cusco, la capitale. J'ai utilisé ce départ, cette graine mentale qu'est Cusco, parce que ce qui me paraît important, c'est qu'il n'y aura aucun bourgeon qui ne soit issu de Cusco. Allez, je vais vous montrer l'importance de la construction par deux exemples. Le premier, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup troublé parce que Quand on est américaniste, on se rend compte que c'est un sujet tellement neuf qu'il faut tout deviner. À un moment donné, c'est parce qu'il y a 20 ans que je suis dans le sujet, que petit à petit je finis par sentir les choses, et à force de les sentir comme un chien qui est sûr d'une trace, on se dit « j'ai raison, je retrouverai la solution au bout de cette trace ». Alors, dans un langage muet, dans cette espèce d'odeur visible que représentent les monuments incas, c'est ce qu'il nous faut. Je vais vous donner un exemple qui est très curieux, et que même un double exemple que j'ai découvert de façon un peu fortuite. C'est sur un site de la côte. Chaque fois qu'on voit un site qui a été touché par les Incas, on est très troublé par la façon dont les murs sont enracinés. Et chaque terme que j'utilise a sa valeur. Les mots ont leur valeur pour un Inca et ils ont même une valeur symbolique. En bord de mer, il n'y a pas de pierre. On est dans le sable, on est dans le désert parfait à cause du courant de Humboldt. Enfin, toute la côte péruvienne est un désert parfait, sauf les zones qui sont irriguées par... l'eau qui descend souvent en sous-sol des Andes et qui permet par des canaux incroyables, par des tunnels incroyables, d'apporter l'eau jusque dans les endroits de cette plaine selon le niveau de la nappe phréatique. Mais ça, ce sera peut-être un autre sujet de parler de ces centaines de petites vallées côtières. Mais ce qui m'intéresse, c'est simplement de voir que quand un Inca a voulu construire un tambo, c'est-à-dire un lieu pour mettre du matériel, des marchandises, cette espèce de côté un peu communiste, je n'aime pas le terme, mais en tout cas socialisant de l'Inca qui faisait qu'on mettait toutes les marchandises et qu'ensuite on les redistribuait, les a souvent obligés sur la côte aussi à faire la même chose qu'en altitude. C'est-à-dire qu'on pouvait se retrouver devant des milliers de tonnes de marchandises qui ensuite étaient redistribuées. Le coton en bas, par exemple, et puis la laine de vigogne ou d'alpaca ou de lama en haut. Et ça se croisait. Alors, j'en parle parce qu'il y a un site qui se trouve comme cela sur la côte et qui m'avait beaucoup intrigué parce que, comme il n'y a pas de pierre, on a utilisé uniquement la terre, ce qui était déjà fait avant les Incas. C'est-à-dire qu'on pétrit simplement de la boue avec de l'eau et on fait les murs. Et comme il ne pleut pas depuis 10 000 ans, on n'a pas beaucoup de chance que les murs se démolissent, ou très peu. Une fois tous les 25 ans, on a une bonne chute d'eau, ce qu'on a eu dernièrement d'ailleurs dans les années 83. Eh bien, ce qui m'avait fasciné, c'est de voir que tous les murs de ce grand site, c'est le cas à Pachacamac, qui est un nom déjà beaucoup plus connu si on lit encore Tintin, eh bien, c'est que la base des murs était une base créée par des cailloux, par du granit qu'on avait importé de Cusco. Là, vous me suivez. Ça veut dire qu'on était allé chercher dans la capitale, au nombril du monde, je dirais presque justement dans cet endroit un peu sexué du monde, on est allé prendre la petite graine de pierre et on l'avait plantée, on l'avait mise en fondation de murs qui se termineraient avec de la terre. Or, cette fondation était en dur, elle était parfaitement polie, et ce qui est fascinant, c'est la façon de jointoyer tout cela. Les Incas, sans instruments de métal suffisants, il y avait de l'or, c'est vrai, il y avait de l'argent, c'est vrai, il y avait déjà des alliages extraordinaires, mais sur du granit, ça ne sert à rien, c'est trop mou. Donc, on travaillait cela avec des silex, avec des marteaux de pierre. Et c'était surtout de la patience qu'il fallait, parce qu'on finissait par polir de manière tellement extraordinaire les blocs, qu'il est encore impossible aujourd'hui d'y glisser une lame de couteau. Et j'ai même fait, c'est dans le même ordre d'idée, une découverte encore plus folle à Sacsayhuamán, on en parlait tout à l'heure, c'est la gueule et la tête du jaguar de Cusco. On a des blocs tellement imposants qu'on a remarqué qu'on pouvait faire une théorie. Si dans votre mémoire vous voyez un mur, un cas, vous allez voir que les angles ne sont pas égaux. La fameuse pierre aux 12 angles que tout le monde a vu une fois en photo, en plein cœur de Cusco, eh bien c'est cela. Ce sont des pierres qui ont des angles complètement farfelus et qui s'imbriquent les unes dans les autres de façon extraordinaire. Alors, c'est déjà beaucoup plus difficile à tailler. Je veux dire que quand vous avez tout à coup 5, 6, 10, 12 angles à mettre en place dans 5, 6, 12 autres angles qui, eux, se répercutent 5, 6 ou 12 fois, obligatoirement, il faut une calculation, une précision dans le polissage qui nous dépasse complètement. Mais ce qui m'a affolé à Sacsayhuamán, c'est qu'à l'intérieur de ces tranches, allez, imaginez-vous que vous coupez les morceaux exactement comme dans une motte de beurre, la folie, c'est qu'à l'intérieur des joints, il y a encore des formes arrondies, concaves, et qui pénètrent dans une forme elle-même taillée, ce qui fait que les joints intérieurs créent des sortes de clés qui empêchent encore le bloc de bouger. Alors vous allez me dire, mais pourquoi autant de travail? Pourquoi cette chose insensée qui fait qu'on va perdre en énergie beaucoup plus de temps que pour aller extraire une simple pierre carrée et la poser comme nous posons une brique sur une autre brique? Ben, il faut être un cas pour cela. C'est-à-dire qu'il faut penser que la pierre n'a pas la même valeur que celle que vous lui donnez. Et que ces pierres-là, elles ont été conçues comme cela parce que énergétiquement, il fallait dépenser un maximum, c'est le travail de l'homme pour ses dieux, pour son pouvoir, pour ses supérieurs, pour le fils du soleil, par exemple, l'Inca, qui était le seul qui portait ce nom, mais c'est aussi quelque chose qui doit durer pour l'éternité. Je m'explique. Quand on parle du Pérou, et tout à l'heure je l'ai cité sans le vouloir, je vous ai dit qu'en 1950, c'est grâce à un tremblement de terre terrible qu'on a vu que sous les stucs des gens de Santo Domingo, des Dominicains, sous le gravat, sous le plâtre que des chrétiens et des Espagnols avaient posé sur des pierres incas, on a retrouvé quelque chose de parfait. Ça veut dire que notre construction est imparfaite et qu'elle est tombée en 1950, mais que les constructions incas, elles, n'ont pas bronché. Or, à Sacsayhuamán, en faisant des formes comme cela très, très bizarres, eh bien, comment vous le dire de manière simple, sans le visualiser, sans être sur le site et sans pouvoir vous le décrire devant les cailloux. Imaginez-vous un shaker que vous secouez très fort, mais que ce shaker ne contienne que des blocs de glace qui eux ont été préalablement taillés dans une forme précise, et au moment où vous secouez très fort, obligatoirement, parce qu'ils ont tous des formes en demi-triangle, en Y, etc., plus vous les secouez, plus ils reviennent en place. C'est-à-dire que la grande muraille de Sacsayhuaman, plus vous la secouez, plus elle a des chances que chaque bloc revienne exactement à l'endroit où les constructeurs incas l'avaient voulu. Vous comprenez? Donc on arrive à créer en même temps un mur antitellurique. Ces monuments ne peuvent plus tomber. Ils sont imbriqués de manière tellement polyforme qu'obligatoirement, en secouant, ça bouge. Mais ça retombera par la force même de la gravité exactement à l'endroit où ça doit retomber. Avec les moyeux, avec les systèmes, avec les polissages qui, eux, vont se permettre ce mouvement. Si vous mettez un bloc carré sur un autre bloc carré, vous allez voir, c'est la glissade générale et il n'y aura plus rien qui fonctionnera.
Y soy amigo del guayno, de la quena y el tambor, de Tarija, Cochabamba, de Oruro hasta La Paz. Soy amigo de esta tierra que quiere salir al mar.
Si j'ai parlé de la façon dont on a sculpté, travaillé la pierre, c'est surtout pour comprendre un peu, je dirais, le côté aberrant de Machu Picchu, parce que c'est bien le sujet. C'est quand on s'est rendu à Machu Picchu, quand on est au fond, le long de l'Urubamba, qu'on écoute le rugissement de ce fleuve, qu'on se replace en 1911, au moment où Bingham va monter sur ses mules, et qu'on vient de lui apprendre que là-haut il y a quelque chose, que là-haut il y a des ruines, une ville entière, comme disait cet Indien, qui lui avait annoncé le site. Bah, on n'y croit pas, c'est vrai. Il y a 700 mètres de différence. On est vraiment sur un endroit absolument aberrant. On voit déjà le Huayna Picchu qui va fermer la boucle complète du fleuve. On devine le Machu Picchu, le vieux pic et le jeune pic qui se répondent comme cela. Mais nous, on est vraiment dans le trou. On n'y croit pas. On pense que c'est impossible. N'oubliez pas que nous sommes à 100 km de Cusco, mais qu'aujourd'hui, il n'y a encore aucune route qui va de Cusco à Machu Picchu. Vous êtes obligé depuis Ollantaytambo de prendre le train pour descendre le long de ce toboggan incroyable qui passe carrément de 3800 mètres à 2000 mètres sur quelques kilomètres. C'est-à-dire vraiment, vous avez l'impression que vous allez avaler la jungle, que vous allez descendre vers un monde inconnu. C'est une frontière. C'est l'aberration même, Machu Picchu. Sans l'avoir connu, sans l'avoir rencontré, sans l'avoir trouvé, puisque nous sommes encore en 1911, on comprend que c'est vraiment quelque chose de miraculeux, c'est vrai, mais également d'intangible. Et je vais vous donner un autre exemple, totalement aberrant pour l'Inca. Mais c'est peut-être la meilleure façon, par ces côtés un peu choquants, d'expliquer cette civilisation et surtout le cerveau de ceux qui l'ont conçue. Je vais reprendre un exemple qui est une borne. Une borne non seulement dans le temps, mais surtout dans l'espace. C'est-à-dire l'extension majeure, à un moment donné, de l'Empire Inca. N'oubliez pas que cet empire a fait 5000 km de longueur, a eu 5000 km de pistes, de routes. On se croirait chez les Romains entre l'Écosse et l'Égypte. C'est vrai que ça correspond à des distances incroyables quand on le prend sur la carte de l'Europe. Eh bien, à l'extrémité du monde, du côté chilien, carrément dans cette cordillère, à plus de 6000 mètres d'altitude sur le mont Toro, les archéologues ont retrouvé, ce sont les alpinistes au départ, ce sont ces gens qui ont voulu faire tous les sommets des Andes au cours de notre siècle, qui ont retrouvé quelque chose d'incroyable, une construction inca à plus de 6000 mètres d'altitude. C'est-à-dire que ces gens, nous avons des piolets, nous avons des outils, nous avons des doudounes, on a tout ce qu'il faut pour grimper aujourd'hui. Et nous avons surtout des cordes, des piolets. Eh bien l'inca dans son poncho est monté à plus de 6000 mètres d'altitude, non pas avec un sac de montagne, mais avec des pierres, des cailloux taillés parfaitement comme ceux de tout à l'heure, afin de créer un petit monument au sommet du monde, tout près des dieux, au bout de son monde conquis. Et là, au sommet du Toro, on a retrouvé un enfant. On a retrouvé un enfant congelé, un enfant tout habillé, juste endormi, avec la tête penchée sur le côté, assis en tailleur, avec son petit ensemble de laine, avec ses bracelets d'or, avec son diadème, ses petites statuettes d'argent, son petit lama, ses petites bourses à coca, parce qu'effectivement, il a certainement été drogué avant de s'endormir dans le froid. C'est une offrande, c'est un sacrifice. Et cet enfant, vous pouvez le voir si vous allez aujourd'hui à Santiago de Chile. Vous pouvez le voir dans un musée, il est encore congelé, il est encore conservé sous congélation, comme il l'était au sommet du Toro. Mais ce qui m'intrigue, ce n'est pas seulement ce sacrifice, cette espèce de blocage de la vie pour borner le temps et l'espace, c'est bien sûr la construction elle-même. C'est un petit Machu Picchu. Machu Picchu, on y a vécu, certainement. On ne sait pas qui, ni comment, ni pourquoi on a fait Machu Picchu. C'est la frontière d'un monde. On sent, je vous parlais de cette chute vertigineuse lorsqu'on part depuis la vallée sacrée et qu'on sent en suivant ce torrent bouillonnant avec le petit train. Moi, en principe, je me mets toujours à l'extérieur du train, soit sur le toit, soit carrément. Enfin, maintenant, il est en train de changer, ça devient une espèce d'aquarium obligatoire. Mais si vous prenez le train des Indiens, celui qui part à des heures impossibles de Cusco au petit matin, ben, vous pouvez vous asseoir sur leur marchepied et vous sentez la rivière, vous sentez que vous arrivez dans un nouveau monde. On suit vraiment les traces de Bingham comme il l'a fait avec ses mules. Et si j'ai parlé de cela, c'est aussi pour situer déjà, comme nous le savons aujourd'hui, le lieu, mais aussi la mentalité qu'il faut avoir pour l'aborder. Et on pourrait même terminer maintenant sur notre forme de jaguar. Vous vous rappelez de ce jaguar qu'on voit du ciel aujourd'hui, bien sûr, mais que l'Inca a pensé au sol pour sa capitale. Eh bien, on a déjà travaillé le sexe, on a vu la tête avec ces pierres incroyables qui dépassent 100 tonnes, on a vu cette petite queue qui est aujourd'hui la fin de la ville du côté de la gare. Quand vous arrivez depuis le lac Titicaca, vous débarquez dans la queue du jaguar avant de monter en ville, hein, en suivant les petites rivières. Eh bien, il vous manque le principal d'aujourd'hui, c'est-à-dire la place centrale. Or, sur la carte, sur la ligne de Mont-Jaguar, cette place centrale où se trouve la cathédrale, où se trouve l'incroyable église des Jésuites, eh bien, c'était non seulement le lieu public par excellence, mais c'était aussi un lieu de pouvoir et de cérémonie. Je veux dire par là que c'est le ventre, c'est l'endroit où l'on broie, l'endroit où l'on digère les choses. Je parle politique, je parle pouvoir, je parle religion. C'est vraiment que l'endroit où tout se fait. Et bien naturellement, c'est là qu'on avait les grandes fêtes pour le soleil, par exemple le 24 juin, où vous vous retrouviez sur cette place avec non seulement l'Inca et tout son cortège que j'ai décrit tout à l'heure à Machu Picchu, mais que vous aviez une fois de plus toutes ces momies qui suivaient, ces momies qui vont être placées, les messieurs d'un côté, les dames de l'autre, les Incas et leur épouse sur la place, ceux qui maintiennent l'or, celles qui maintiennent l'argent, le soleil, la lune, enfin tous ces symboles qui sont repris et qui sont placés comme cela face au public qui, lui, est de l'autre côté de la place, c'est-à-dire de l'autre côté de la rivière qui elle était couverte et qui créait ainsi une double place à la fois religieuse, cérémonielle, de pouvoir, je le rappelle, et puis le côté laïque avec le marché, l'endroit de réunion où tout le peuple qui vit en dehors, naturellement, du jaguar, va pouvoir se réunir. Et puis, il y a encore une autre chose, puisqu'on parle de Cusco, c'est déjà un peu Machu Picchu, je vous découpe déjà un peu le site comme si nous pouvions tout à coup pénétrer par la grande porte à la fin de la piste Inca, passer cette grande porte et dire « Attention,
Là, je sors du monde laïque, exactement comme tout à l'heure sur la place. Je sors du quartier des agriculteurs que vous avez tous vu avec ces chutes d'andenes, ces fameuses terrasses agricoles qui sont en dehors du vrai centre cérémoniel de Machu Picchu. Une frontière réelle avec un canal, une autre frontière avec une muraille et une seule porte pour pénétrer dans le site. Et tout à coup, c'est la magie. Là, vous vous rendez compte que vous avez pénétré dans un monde impossible, qu'il faut avoir des clés pour comprendre chaque caillou. Vous allez suivre, quand je le fais, par exemple, en accompagnement, c'est vrai que j'ai, moi, depuis 20 ans, un fil d'Ariane. Je me sens presque obligé de passer à telle fontaine, de faire une ablution à tel endroit, de me dire, tiens, là, maintenant, je prendrai cette porte, je prendrai ce couloir. Pourquoi ? Parce que les pierres sont différentes. Chaque fois que vous avancez, vous sentez que derrière un mur, il y a autre chose, que les messages muets finissent par passer. Il y a l'endroit où l'on s'occupe du soleil, il y aura un endroit où il y a eu certainement des momies, il y a un endroit où tout à coup, vous dites, là, il y a un coffre-fort, il y a dû y avoir quelque chose de très fort. Parce qu'à l'extérieur, comme quand vous passez devant un palais de justice, devant une cathédrale, devant la municipalité, bah vous l'identifiez parce que vous savez ce que c'est qu'un hôtel de ville, une église, etc. À Machu Picchu, c'est simplement la forme d'une pierre, la qualité tactile d'une taille de la pierre qui vous dit, bah tiens, ça c'est une peau de bébé, attention, ça doit être extrêmement noble et précieux. Ah tiens, ça c'est un peu rustique, ça doit simplement être un endroit militaire. Vous voyez, c'est simplement par cet esprit-là, cette sensation-là, qu'on peut comprendre un peu la recherche folle d'ailleurs de Bingham et surtout ses interprétations complètement insensées qu'il a voulu faire à partir de ses messages muets, à partir de ces monuments qui ressemblent au nombril à la place publique, au Coricancha de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on retrouvera ces différents éléments. D'accord, ce sera peut-être la prochaine fois. Mais enfin, j'aimerais qu'avant d'avoir les yeux de Bingham, on sente déjà tout cela et qu'on puisse le vivre sur place. Et si je termine maintenant par cette idée, on a plein de théories sur Machu Picchu. On déclare par exemple que c'est là que vivaient les femmes choisies. Ça a aussi été un grand argument. Si on se replace au milieu de Cusco, sur notre place principale, tout à coup on va voir qu'à droite de la cathédrale, on a l'église des Jésuites et que c'est là que se retrouvaient les femmes choisies. Ben voilà quelque chose d'intéressant. Je viens de vous dire involontairement qu'entre le lieu des femmes choisies, la cathédrale qui était le palais de Viracocha, le plus grand dieu, le plus grand empereur, je n'aime pas ce terme, c'est vrai, mais je préfère dire l'Inca parce que c'est un pouvoir beaucoup plus complexe qu'un pouvoir impérial à l'occidental. Et c'est vrai que les Espagnols se sont beaucoup trompés sur la façon dont fonctionnaient les dynasties Inca. Ils ont toujours cru qu'il y avait papa et le fils et que le droit héréditaire, pas du tout. C'était le meilleur, c'était celui qui avait le droit des dieux qui prendrait un jour le pouvoir, et c'est pour ça que les conflits ont pu exister jusqu'à la mort entre deux frères, pour que le meilleur gagne, qu'il soit appuyé par les religieux, qu'il soit appuyé par les militaires, ceci n'avait pas d'importance. Il y avait des factions. Et si je vous parle de factions, c'est que même une ville comme Cusco était encore découpée en morceaux. Vous aviez le haut et le bas Cusco. Vous aviez la partie noble et l'autre partie. Vous aviez la partie féminine et la partie masculine. Les femmes choisies à droite, les hommes et l'université à gauche. Vous me comprenez ? J'ai pris un raccourci en disant université, mais les amautas, les poètes, ceux qui avaient la connaissance, les militaires, vous les mettiez d'un côté. Et les femmes, vous les mettiez de l'autre. Donc il y avait le pouvoir de la lune, le pouvoir du soleil, et vous vous rendez compte qu'involontairement, par des raccourcis, je le rappelle, je suis en train de vous faire une carte. Une carte mentale où tous les éléments sont en place. C'est exactement comme si vous rentriez sans rien savoir du christianisme dans une église. Il faudrait bien que je vous dise que là, il y a un autel, que cela représente telle et telle partie de la divinité, s'il y a Trinité, et puis qu'après tout, vous avez des chapelles, vous avez des saints, etc. Il faut avoir cette géographie mentale avant de pénétrer sur un site muet comme Machu Picchu. Eh bien, effectivement, vous comprenez mieux maintenant pourquoi, en suivant la mule de Bingham, en écoutant les paroles des Indiens de l'époque, en remontant petit à petit jusqu'au sommet du Machu Picchu ou du Huayna Picchu avec lui, on va maintenant commencer à découvrir les différents éléments et surtout les monuments les plus importants du site.
Thank you.
poursuivre les traces de Bingham, d'Hiram Bingham, il faut avoir compris comment vivait l'Inca, mais il faut aussi avoir compris qui a bien pu un jour occuper ce site fabuleux de Machu Picchu. Tout le monde l'a en mémoire. On voit toute cette multitude de quartiers, de maisons, de quartiers bien délimités. Et tout à coup, là, on se dit, ben oui, il y a les femmes choisies. C'est vrai que là, il y a les prêtres. Qu'est-ce que c'est qu'une femme choisie? C'est en fait une vestale, en fait, qui a été choisie dans le peuple, c'est-à-dire sur l'ensemble même de cet incroyable territoire inca. Lorsqu'une femme, une fille, une enfant était belle, on la choisissait. Elle était offerte en part divine à la partie centrale. Là, je viens de toucher une règle tout à fait inca, que ce soit pour une personne, que ce soit pour un légume, que ce soit pour un habit, que ce soit pour quelque production que ce soit, tout appartenait à un moment donné à l'inca. C'est-à-dire qu'on a affaire à une fantastique pyramidale où tout se répartit. C'est le seul peuple de la Terre à l'époque qui avait la sécurité sociale. Vous viviez effectivement dans des règles implacables, j'irais même dans des niches de chiens comme le décrivaient les Espagnols, vous ne pouviez rien faire à votre destin, vous n'aviez même pas le droit de faire 3 km à pied de manière gratuite, vous étiez contrôlé complètement, vous viviez dans un endroit, vous mouriez dans cet endroit, mais par contre, on vous offrait tout, c'est-à-dire que lorsque vous étiez vieillard, on vous donnerait votre entrée à VS, on vous permettrait de vivre, de manger et de subvenir à vos besoins ou même de s'occuper de vous quand vous êtes malade de façon totale. Or, si on choisissait un enfant, on savait qu'on devait le donner parce que cette pureté d'une belle fille obligatoirement permettrait d'agrandir le gynécée de l'Inca et d'avoir un maximum d'enfants. Allez, juste un petit exemple sympathique, Huayna Capac avait 200 enfants. Ça, c'était assez typique. Un grand Inca pouvait, un peu comme à l'oriental, si vous voulez, avoir toute une cour. Et ces femmes choisies, c'était vraiment des vestales qui s'occupaient du culte solaire et du feu solaire dans le temple. Donc, à Machu Picchu, on peut imaginer tout à coup ces cérémonies parce qu'on se dit, tiens là, c'est plutôt un quartier d'artisans. Tiens là, ce serait vraiment l'endroit propre à ce culte solaire. Vous avez le Torreón, vous avez un mur, vous avez une grotte dessous, vous avez des lieux sacrés. Et puis vous avez l'Intihuatana. Allez, ce sont des termes que vous ne connaissez pas encore. On les découvrira la prochaine fois. On a l'Intihuatana, c'est l'endroit où l'on attache le soleil. Vous savez, cette pierre étrange, sculptée de façon un peu curieuse, avec une partie oblongue en surface qui monte carrément vers le ciel, au sommet même du centre cérémoniel de Machu Picchu. Je crois que c'est un peu tout cela qu'il faudra décrire, petit à petit, sous l'œil de Bingham, qui lui a découvert cela comme un enfant. En 1911, on ne savait rien, il avait déjà traversé certains sites, il avait déjà visité Cusco, il avait vu Pisac, il s'était arrêté à Yucay, il était descendu à Ollantaytambo, ce sont des sites merveilleux que l'on découvrira la dernière fois. Je vous ai parlé d'abord de Cusco, parce qu'on sait beaucoup de choses sur Cusco. Je viens de vous partager le monde en quatre, je viens de vous le partager au masculin, féminin, au bas, dans votre tête petit à petit, aujourd'hui s'est formé une sorte de pyramide double mentale. Je veux dire par là que tout à coup vous sentez qu'il y a quelque chose sous vos pieds, Pachamama, la déesse de la terre qui est encore adorée par tous les Indiens des Andes, qu'en dessus vous avez un point majeur qui est le point solaire, et puis vous avez un immense mouvement qui se met en route, et vous avez la vie là-dedans, l'agriculture, vous avez senti par le sexe, par le ventre, par l'estomac, par la bouche, ingestion, ingurgiter l'énergie, vous avez senti que nous avions affaire à un empire, c'est vrai, mais surtout à une fantastique machine que l'Inca a appris à mettre en place et surtout à fixer pour l'éternité dans la pierre. C'est ça le message au départ muet de Machu Picchu. En forme de conclusion, vous savez maintenant qu'il y a plus de 70 ans que Hiram Bingham, ce jeune professeur de l'université de Yale, s'est passionné pour le monde inca, est venu et a enfin découvert cette cité interdite, cette cité perdue de Machu Picchu. C'est vrai qu'il va se retrouver au centre d'une aventure extraordinaire et totalement énigmatique aussi, parce qu'il n'y a aucune solution après Bingham. Et après 70 ans, il n'y a toujours pas de solution pour Machu Picchu. Et c'est quand même assez fantastique de penser que la dernière fois ou ces dernières fois, je vous ai parlé des Mayas du Mexique et on a pu trouver des solutions grâce aux hiéroglyphes. Si je vous parle de Champollion, vous dites ça y est, on a compris toute l'Égypte. Si je vous parle de la Rome ou de la Grèce antique, vous connaissez toute la philosophie grecque, vous savez comment fonctionnaient les Romains. Si je vous parle de Machu Picchu, c'est le silence. Personne ne connaît ni le nom, ni le pourquoi. Bon, sans cette frontière, j'en ai beaucoup parlé avec la jungle, mais Machu Picchu, ce sont des maisons de pierre, silencieuses. Qu'est-ce qu'il reste à faire? À mettre quelques joncs sur les toits qui n'existent plus? À prendre quelques ponchos rouges, une quena, un tambour, et Machu Picchu peut revivre. Dans ce silence, dans ce bruit, dans cette musique, ou par cette musique, bah, je crois que le côté muet n'est pas si vrai qu'on le croit. Machu Picchu, sentez-le. Regardez le site. Voyez-le peut-être un peu plus avec les tripes et le cœur, et vous comprendrez que c'est une autre civilisation, c'est un autre monde, c'est quelque chose de plus magique que ce que nous avons l'habitude de pratiquer au jour le jour dans notre civilisation. Quand je voyage au Pérou avec des amis européens, je dis toujours, attention, à partir d'aujourd'hui, vous avez la tête en bas. Continuez. La prochaine fois, nous partirons d'Hawaï, cette île où est né Bingham. Nous irons d'abord aux États-Unis, à Yale, et puis nous partirons surtout à travers le Venezuela. C'est ce qu'il a fait, il a suivi la piste de Bolivar, la piste des conquistadors. Il est arrivé dans le monde Inca, dans cette région de Cusco, et là c'est le coup de foudre. Il fera tout pour créer cette expédition incroyable soutenue par le National Geographic et l'université de Yale. On a l'impression que c'est prémonitoire. Il sait déjà ce qu'il cherche. Et nous allons voir, nous allons comme lui savoir ce que nous allons trouver. C'est-à-dire, on a déjà beaucoup parlé de Machu Picchu. On a l'impression que Bingham en savait autant que vous en savez.